n'y a pas à dire. Le Jésus de l'évangile de Jean, tel qu'il apparaît face à la mort, est assez déroutant. Il semble affronter les épreuves sans émotion, sans révolte, sans l'ombre d'un doute, parfaitement maître de son destin. Il tient tête à Pilate, il accepte son sort sans plus d'état d'âme, il enchaîne les étapes de sa passion avec le flegme d'un guide de montagne qui connaîtrait le chemin du calvaire par cœur et ne craindrait aucun obstacle. C'est tout juste s'il ne monte pas lui-même sur la croix. Et même là, pas de cris, pas de larmes, pas de faiblesse. Que faire d'un Christ aussi serein face à la mort ? En regard des événements dramatiques dont regorge notre actualité, c'est même un peu gênant. On préférerait peut-être un Dieu solidaire de ceux qui sont persécutés, un Dieu proche de nos souffrances, un Dieu qui nous rejoint là où ça fait mal. Et voilà son envoyé dans le monde qui donne l'impression d'aller paisiblement au trépas et qui accepte l'achèvement de sa mission, sans broncher. D'ailleurs, comment cette mort décidée pour des raisons obscures, au terme d'un procès plus qu'expéditif, peut-elle être un achèvement, un accomplissement ? Comment Dieu peut-il être complice d'une telle injustice ? Mais comme nous sommes Vendredi Saint, et que nous sommes réunis pour faire mémoire de la mort de Jésus, portons donc notre attention sur la croix de son supplice. Et faisons un gros plan sur l'inscription que Pilate a fixée juste au-dessus de la couronne d'épines de Jésus. Cet écriteau qui précise le motif de la crucifixion et sur lequel il est écrit « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Voilà, ma foi, un roi en bien piètre posture. Un roi qui ne s'est pas défendu, qui n'a trouvé personne pour lui porter secours. Alors Pilate se moque de lui, bien sûr. Il se moque aussi de ceux qui l'ont entouré. Il semble leur dire « Voilà le sauveur que vous attendiez. Voilà celui qui devait libérer votre terre de l'occupant romain ». Et pour insister encore un peu, il traduit ce qu'il pense être un sarcasme en trois langues différentes pour accentuer le contraste entre ce petit roi impuissant et la célébrité à laquelle il ne peut pas prétendre. L'araméen, la langue du peuple, un peuple qu'il ne n'a pas soutenu. Le latin, la langue du pouvoir, un pouvoir qui lui échappe, le grec, la langue des échanges culturels, pour celui qui n'est pas censé entrer dans l'histoire. Pourtant, Jésus n'a jamais revendiqué aucun pouvoir politique. Quand on l'interroge sur ses prétentions, il dit que sa royauté n'est pas de ce monde. Et Pilate ne comprend rien. Parce que pour lui, pour Pilate, un roi, c'est quelqu'un qui non seulement est de ce monde, mais qui aspire en plus à jouer un rôle actif dans son partage. Quelqu'un qui a les deux pieds sur terre pour pouvoir administrer un territoire et une population. Un roi, c'est le garant de la cohésion du peuple, le défenseur des valeurs et des règles qui font le ciment de la société. Le pouvoir qu'il incarne lui sert à défendre la stabilité et la pérennité des institutions. Alors certains dans l'histoire ont été des rois bâtisseurs et rassembleurs, comme le roi David, dont la légende est encore très présente parmi les contemporains de Jésus. D'autres ont été des tyrans sanguinaires qui confisquaient le pouvoir à leur profit et qui persécutaient le peuple, comme Hérode, qui régna les premières années de la vie du même Jésus. Nous-mêmes, nous sommes confrontés à divers types de souverains. Notre actualité met périodiquement en scène des rois toxiques et fanatiques qui manipulent l'opinion pour imposer leur vision du monde. Peu importe la résistance qu'on leur oppose, ils imposeront leur volonté par la force, à n'importe quel prix. Leur ambition est sans limite. Ils n'hésitent pas à sacrifier des vies pour servir leur cause. Pour eux, la vérité n'est pas un horizon, elle est une obsession mortifère. Dans une démocratie qui se porte bien, le peuple est le véritable souverain qui élabore les bases du bien commun dans le respect de la pluralité des opinions. Mais même là, malgré toutes ces précautions, il se peut que les normes qu'ils se donnent ne reflètent pas le bien de tous. Il se peut même que certaines de ces lois soient injustes. Chaque société, même la plus équitable, a ses laissés pour compte. Mais Jésus ne revendique pas ce type de royauté. Pour autant, il ne refuse pas d'incarner toute forme d'autorité. Il dit même à Pilate, qui n'y comprend décidément rien, qu'il est porteur de la vérité, ni plus ni moins. Pour des esprits modernes habitués au pluralisme des convictions et à la tolérance, cette référence à la vérité peut paraître excessive. Mais la vérité à laquelle Jésus rend témoignage n'est pas un dogme. Elle n'est même pas une croyance. Elle n'a pas le vernis des certitudes bien ancrées. Elle n'a pas besoin de consensus pour se maintenir. Si elle convainc, c'est parce qu'elle touche les êtres au plus profond d'eux-mêmes. Si elle rassemble, c'est parce qu'elle nous rend sensibles les uns aux autres. Elle ne se laisse enfermer dans aucune institution, même pas dans les églises qui s'en réclament. Elle est en chemin, cette vérité. Elle veut nous rencontrer. Elle est une promesse de vie qui déborde le cadre dans lequel nous vivons, qui brise nos enfermements et qui fait reculer l'horizon de nos attentes. Cette promesse nous est donnée même quand tout semble impossible. Elle se dit encore quand tout a l'air fini. Elle résonne même au cœur de la mort. Elle contourne le drame de notre existence dans le monde pour nous rejoindre. Elle nous assure que même si nous sommes insatisfaits de notre existence, même si nous ne savons pas quoi faire pour vivre mieux, même si nous n'arrivons pas à faire justice à chacune et à chacun, nos errances ne seront pas le dernier mot de notre histoire. Les adversaires de Jésus sont dans l'incapacité d'accueillir cette bonne nouvelle, parce qu'ils sont enfermés dans des représentations, des règles, des croyances qu'ils ressassent jusqu'à la nausée. Ils ont sacralisé leurs institutions pour les rendre éternelles. Ils ont divinisé leurs habitudes pour les rendre immortelles. Ils tournent en rond en regardant leurs pieds. S'ils avaient une devise, ça pourrait être « Quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, eh bien, on est content de penser ce qu'on pense. » Ils ne sont pas particulièrement plus méchants que la moyenne, mais ils ne peuvent pas recevoir la promesse de Jésus parce qu'elle ne tient pas dans le cadre de leurs préoccupations, de leurs représentations. C'est normal, nous sommes tous ainsi. Croire en une vie plus large que notre vie ne va pas de soi. Ce n'est pas facile de faire le vide dans nos certitudes, dans nos habitudes, pour créer un espace de rencontre assez grand, pour accueillir l'amour que Dieu veut nous offrir. Alors oui, contre toute attente, l'écriteau disait juste, Jésus est bien un roi. Pas parce qu'il gouverne un territoire et ses sujets, mais parce qu'il offre une espérance qu'aucune promesse électorale ne peut contenir. Parce que la liberté qu'il donne est bien trop grande pour tenir dans un programme politique. parce qu'il voit en chaque être humain une personne irréductible à son destin, parce qu'il nous ouvre un avenir qu'aucun autre souverain ne pourrait imaginer. Alors oui, le Jésus de l'évangile de Jean a consenti à sa mort, mais c'était pour nous montrer que la vie qu'il nous donne ne se laisse jamais intimider par rien au monde, parce qu'avec lui, tout ce qui nous retient prisonniers a été crucifié. Jésus est venu dans le monde pour nous dire qu'il n'est pas du monde, pour semer des ferments d'espérance au creux de nos vies, tissés d'ombre et de lumière, et pour nous inviter à ne pas trop nous prendre au sérieux, parce que rien de ce qui nous arrive ne sera le dernier mot de notre histoire. Du haut de la croix, il nous remet son esprit. À notre tour, nous sommes appelés à devenir témoins d'une promesse de vie qui veut restaurer chaque être humain dans sa dignité et lui redonner le goût du chemin, un chemin qui s'ouvre bien au-delà des évidences. Amen.